décennies, la mort est devenue un petit peu un sujet tabou. Et le désir de nos concitoyens actuellement, c'est de rendre cette mort la plus, je dirais, indolore possible. On cache la mort, on n'en parle plus beaucoup, et du coup, ça devient un sujet de société. Voilà. Donc, on va revenir. Je vous propose en un premier temps, assez rapide, de vous décrire un petit peu le travail en soins palliatifs. Désolée pour ceux qui le connaissent. Voilà. Et puis ensuite, je vais revenir sur toute l'évolution législative et ce qu'on nous prépare pour le mois de mars. Voilà. Donc, les soins palliatifs, ce sont des soins actifs qui sont délivrés à une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, dans une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'on prend en charge la douleur physique, mais aussi toute la souffrance psychique, spirituelle et sociale. Les soins palliatifs sont nés un petit peu en réaction avec cette médecine qui devenait de plus en plus technique, hyper puissante, et qui oubliait un petit peu la personne humaine derrière le malade. Donc, les soins palliatifs se déclinent en plusieurs modes. Donc, il y a l'unité de soins palliatifs, donc celle que je dirige à Paris. C'est une unité d'hospitalisation qui est réservée aux situations de fin de vie les plus complexes, c'est-à-dire des situations de fin de vie qui ne peuvent pas être à domicile. Mais fort heureusement, tout le monde n'est pas appelé à mourir en unité de soins palliatifs. On peut mourir aussi très bien chez soi. Il y a des lits identifiés de soins palliatifs, c'est-à-dire que dans les services d'hospitalisation traditionnels, il y a des lits qui sont réservés pour les patients qui sont en phase palliative, il y a des réseaux de soins palliatifs, il y a des soins palliatifs à domicile, et maintenant pratiquement tous les hôpitaux ont une équipe mobile de soins palliatifs qui va justement dans les services conseiller, assurer la formation, rencontrer les patients, aider à l'orientation des patients quand ils doivent quitter l'hôpital. Juste pour vous décrire un petit peu, donc moi je travaille dans un petit hôpital de 150 lits, donc voilà, à Paris c'est un petit hôpital. Notre unité de soins palliatifs a en théorie 40 lits d'ouvert jusqu'au Covid. Voilà, on a l'agrément pour 40 lits et on avait 40 lits de soins palliatifs et malheureusement depuis le Covid, on en a fermé la moitié. Faute de combattants, c'est-à-dire faute d'infirmières et de médecins. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc c'est une unité de soins palliatifs qui a ouvert en 2009, donc on accueille essentiellement des patients, la plus grosse proportion sont des patients atteints de cancer en phase très avancée, voire terminale. Et puis on a aussi des pathologies neurologiques, on a des défaillances d'organes. Enfin, voilà. La sécurité sociale définit une durée moyenne de séjour, ce qui est assez compliqué. C'est-à-dire que la durée moyenne de séjour dans une unité de soins palliatifs doit être de 18 jours. Donc vous voyez comme c'est précis. Voilà. L'équipe est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des agents de services hospitaliers, et puis des psychologues, des assistantes sociales, enfin je dis une ou deux psychologues suivant le nombre de lits ouverts, une assistante sociale, on a un ou deux kinés, on a des bénévoles, on a une convention avec l'aumônerie de la paroisse d'à côté, et puis on a des intervenants extérieurs comme des danseurs, des musiciens, qui viennent faire rentrer un petit peu de vie dans le service, parce que si on peut dire que la philosophie des soins palliatifs, c'est de maintenir la vie jusqu'au bout. Refuser l'acharnement thérapeutique et en même temps refuser d'accélérer la mort. Enfin, je pense que tout ça, vous avez peut-être entendu parler. Voilà. L'arrivée d'un malade en soins palliatifs, c'est toujours un petit peu compliqué pour le patient et aussi pour sa famille. Donc, l'accueil est quelque chose de fondamental. Donc, le patient va avoir un entretien avec tous ceux qui vont prendre en charge, c'est-à-dire le médecin, l'infirmière, le psychologue, l'aide-soignante, et de façon à favoriser son arrivée. Et après, il va se passer la même chose avec les proches, dans une pièce séparée. Et souvent, donc la première chose qu'on demande à un patient quand il arrive en soins palliatifs, c'est qu'est-ce qu'il sait sur sa maladie et qu'est-ce qu'on lui a dit sur le service où il arrive. Parce que ça, c'est quand même très révélateur. Hein. Vous avez des patients qui vous énoncent tout simplement qu'ils ont telle ou telle maladie, et puis il y en a d'autres qui ne s'en rappellent plus, ou qui disent que les médecins ne les ont pas informés. Voilà. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'on leur a expliqué sur le service, les réponses sont très variées. Quelquefois, on nous dit je viens ici pour me retaper. Bon. Et d'autres savent un petit peu ce que c'est que les soins palliatifs et savent qu'ils vont recevoir des soins de confort. Ensuite, on reçoit la famille et on a souvent des informations complètement différentes de celles qu'on a reçues du malade. Et du coup, il y a un entretien qui est important parce que le soutien des familles, c'est 50% de notre travail. C'est-à-dire qu'on s'occupe des patients, mais on s'occupe aussi des familles. Donc voilà, après l'hospitalisation, elle se passe comme dans un service traditionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge le patient sur tous les plans, hein. Donc le soulagement de la douleur, mais aussi tous les autres symptômes physiques, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement de la famille, voilà. Il y a des patients qui sortent du service de soins palliatifs, fort heureusement, c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, quand ils sont suffisamment stables, il y en a qui peuvent rentrer à domicile, il y en a qui peuvent retourner dans le service d'où ils viennent. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui, quand même la majorité, qui décèdent dans le service. Je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez déjà des questions, mais il y en aura peut-être pour après. J'ai été un petit peu rapide sur cette première partie parce que je voudrais surtout maintenant m'attacher à l'évolution actuelle de la législation. Je vais vous faire un bref retour, mais court, mais vraiment très important, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'à chaque étape législative, on franchit un palier de plus, en fait. Donc en 1999, il y a eu une circulaire qui s'appelait la circulaire Larocque et qui a dit que tout un chacun avait droit aux soins palliatifs. Donc c'était bien, c'était inscrit dans les textes. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait la réalité, hein, puisqu'on sait qu'il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs et qu'il y a actuellement par an 100 000 personnes qui pourraient bénéficier de soins palliatifs et qui n'en ont pas. Donc ça, c'était dans les textes. Après, en 2002, il y a eu la loi Kouchner sur l'autonomie du patient. Donc ça, c'était peut-être pas mal, parce que jusqu'à présent, le patient, il n'avait pas beaucoup son mot à dire dans sa prise en charge. C'était quand même le médecin qui savait tout, qui disait tout. Donc, il y a eu une avancée vers un peu plus d'autonomie du patient. Donc là, on est en 2002. Et puis, après, arrive l'affaire Vincent Humbert. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a deux Vincent, vous allez voir. Donc, je ne sais plus si vous vous souvenez de cette médiatisation. Donc, Vincent Humbert était un jeune qui était né en 1981 et l'affaire est survenue en 2003. Voilà. Donc, en fait, à l'âge de 19 ans ou 20 ans, il est victime d'un très grave accident de la circulation. Il est réanimé par ses collègues parce qu'il était pompier volontaire. Et malheureusement, il garde comme séquelle une tétraplégie et il est aveugle et muet. Donc il est un petit peu enfermé dans son corps et il fait plusieurs démarches pour demander une euthanasie d'exception. Donc il va aller jusqu'à écrire à Jacques Chirac pour lui demander l'autorisation d'être euthanasié. Et là, Jacques Chirac, le président de l'époque, va répondre par la négative. Et donc, ce qui passé, je ne sais pas si vous en souvenez, mais sa maman a essayé une première fois d'euthanasier elle-même son fils. Ça s'est soldé par un échec, parce qu'il a été réanimé par quelqu'un qui passait par là, et du coup, avec l'aide d'un médecin, elle a finalement réussi à l'euthanasier. C'était en 2003. Elle a été jugée en 2006 et l'affaire s'est conclue par un non-lieu. Donc suite à cette affaire-là, il y a eu la nécessité d'une loi. Bon. Et donc c'est ce qu'on a appelé la loi Leonetti du fait du nom du député Jean Leonetti, le député des Alpes-Maritimes, qui est un médecin, cardiologue je crois. Et ça a été une loi qui a quand même changé pas mal de choses. Donc cette loi, elle entérine trois principes fondamentaux. D'abord, le refus d'acharnement thérapeutique. Donc on ne parle plus maintenant d'acharnement thérapeutique, on parle d'obstination déraisonnable. Voilà. On aime bien atténuer le choc des mots. Hein. On ne dit plus un aveugle, on dit un non-voyant, on ne dit plus un sourd, on dit un malentendant. Donc on ne parle plus d'acharnement thérapeutique, on parle d'obstination déraisonnable. Ça, c'était le premier principe de la loi Leonetti, et qui, à mon avis, est un bon principe. Enfin, j'y reviendrai après, mais quand je vois qu'on poursuit des chimios jusqu'au bout du bout, avec des conséquences qui sont assez délabrantes, ça pose quand même quelques questions. Donc le refus de l'acharnement thérapeutique, et surtout un élément très nouveau, le droit d'un patient à refuser, à limiter ou à arrêter un traitement. C'est-à-dire qu'avec la loi Leonetti, bien sûr, un patient pouvait toujours dire à son médecin « je ne veux pas de chimiothérapie », mais avec la loi Leonetti, maintenant, il peut dire à son médecin « je veux arrêter la chimiothérapie » ou « je veux arrêter la dialyse » ou « je veux… Voilà. » Donc ça, c'était un élément nouveau. Et ensuite, il y a eu une notion, c'est la notion de directive anticipée. Donc c'est que chacun, à partir de 2005, a la possibilité d'anticiper et ses souhaits sur sa fin de vie. Alors vous avez des modèles, hein, tout près, par la Sécurité sociale, où il faut cocher les cases, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, je ne veux pas de perfusion, je ne veux pas de nutrition, où je veux, je ne veux pas être réanimé, enfin, voilà. Et puis sinon, vous pouvez les écrire sur papier libre. Et autrefois, elles devaient être écrites devant témoins et elles avaient une durée de validité de 3 ans. Voilà. Il y a aussi un élément dans cette loi qui, là aussi, est très important, c'est que quand un patient était inconscient, il y avait une possibilité pour les médecins, après une procédure collégiale, de décider ou non de poursuivre un traitement. C'est-à-dire que le malade n'étant plus en état de dire « moi je veux poursuivre ou je ne veux pas poursuivre », les médecins ont ce pouvoir, à partir de la loi de 2005, du moment qu'ils respectent une procédure collégiale. Donc ça, c'est quand même un pas important et qui renforce un petit peu la puissance médicale. Et dans cette loi Leonetti, on ne précisait pas si l'alimentation et l'hydratation artificielle étaient traitées comme des, étaient considérées pardon, comme des soins ou comme des traitements. Donc c'est une loi qui volontairement a entretenu le flou et laissant les médecins décider au cas par cas. Parce que si l'alimentation ou l'hydratation sont un besoin, il est évident qu'il faut les poursuivre. Si l'alimentation et l'hydratation sont considérées comme des traitements, à ce moment-là, avec cette nouvelle loi Leonetti, ils peuvent être arrêtés. Donc soit le patient, on n'en connaît pas beaucoup, enfin moi j'en ai jamais rencontré, qui me disent « docteur, arrêtez de me nourrir » ou « arrêtez de m'hydrater », ça je l'ai jamais vu. Par contre, des médecins qui disent ben, « maintenant on va arrêter l'alimentation et l'hydratation », ça c'est une situation qui est beaucoup plus fréquente, et parfois tout à fait justifiée. Hein. Voilà. Donc, il y avait les représentants des religions monothéistes, hein, chrétiennes, juives, qui avaient déjà fait valoir à ce moment-là qu'elles considéraient l'alimentation et l'hydratation, sous quelque forme que ce soit, comme des besoins naturels. Et donc, elles devaient être poursuivies jusqu'au bout, sauf dans les cas où elles deviendraient délétères. Voilà. La loi Leonetis, c'était une bonne loi. Malheureusement, elle a été peu connue, hormis les services de soins palliatifs qui se sont vraiment emparés de cette loi parce qu'elle répondait à pas mal de situations. Les autres services ne s'en sont absolument pas préoccupés. Donc j'espère que vous me suivez toujours. Là, on était en 2005. Et puis en 2012, il y a eu un candidat à président de la République qui s'appelait François Hollande et qui avait pris l'engagement numéro 21 dans son programme de candidat. Et il disait « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. » Et là, c'est très étrange, c'est qu'en préparant cette conférence et en relisant mes notes, je me suis aperçue qu'en 10 ans, eh bien, là aussi la sémantique elle avait changé. Parce que, quelle que soit l'intention de François Hollande, on parle d'assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. 10 ans plus tard, on est en 2022, on ne parle plus d'assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. On parle d'une aide active à mourir. Donc voilà, voilà l'évolution en 10 ans. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, en décembre 2012, il y a eu un rapport qui s'appelait le rapport SICAR, qui dénonçait les situations de mal mourir, parce que c'est vrai qu'il y a des situations de mal mourir, il y a des grandes souffrances, quand malheureusement les patients ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge par des gens ou formés, ou par insuffisance de thérapeutes autour d'eux. Et donc, la conclusion quand même en décembre 2012 du rapport SICAR, c'était qu'il fallait appliquer résolument les lois actuelles, c'est-à-dire la loi Leonetti, plutôt que d'en imaginer sans cesse de nouvelles. Voilà. Bon, le rapport SICAR, ça n'a pas suffi, donc on a demandé l'avis du CCNE, voilà, qui était l'avis à l'époque numéro 121, le Comité consultatif national d'éthique, qui s'opposait fermement à l'euthanasie et au suicide assisté et qui préconisait un droit des individus à obtenir une sédation jusqu'au décès. Donc là, on est en 2013. Voilà. Et là-dessus survient l'affaire Vincent Lambert, cette fois-ci. C'est plus Vincent Imbert, c'est Vincent Lambert. Voilà, vous avez tous entendu parler de ce patient, qui était d'ailleurs infirmier de formation, qui s'est retrouvé dans un état de conscience minimale, qu'on appelle POSI relationnel. Et le 10 avril 2013, l'équipe médicale, qui était chargée de sa prise en charge, a décidé, après avoir consulté son épouse, mais pas ses parents, de cesser d'alimenter et de l'hydrater. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais s'en est suivi une très très longue bataille juridique entre les parents et d'un côté, avec quelques-uns de ses frères et sœurs, et de l'autre côté, le médecin qui le prenait en charge, enfin l'équipe médicale de Reims, et l'épouse. Voilà, je vous passe toutes les péripéties. Juste pour vous dire, après un certain nombre de procès, que Vincent Lambert est finalement décédé en 2019 après un arrêt de traitement nutrition et hydratation. Donc, François Hollande a été élu. Et donc, il a convoqué une conférence des citoyens. Vous voyez que l'histoire se répète. Hein. Donc, c'était un panel non représentatif, des citoyens tirés au sort, qui se sont réunis pendant 5 week-ends, c'est à peu près ce qui va arriver là au mois de décembre, pour auditionner des spécialistes. Et cette conférence des citoyens se prononce en faveur du suicide assisté et pour une exception d'euthanasie. Mais en fait, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Donc, François Hollande va demander à deux députés, Alain Claës et Jean Leonetti, de lui remettre un rapport qui va aboutir à la loi Claës-Leonetti. Donc la loi Claës-Leonetti, elle a été votée le 2 février 2016. Donc ça commence par le préambule suivant. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Donc pour les mots, c'est tout à fait bien en termes sémantiques, là aussi. C'est malheureusement pas toujours le cas. Et les conditions ne sont pas toujours réunies pour ça. Ensuite, le deuxième postulat de cette loi, c'est que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, c'est une étape de plus. Ça veut dire qu'on peut arrêter l'alimentation et l'hydratation d'un patient. Et puis, il arrive une notion tout à fait nouvelle, c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors, la sédation, qu'est-ce que c'est? On va dire, pour faire simple, c'est un coma pharmacologiquement induit. C'est-à-dire qu'on injecte à une personne de façon continue un médicament, de façon à ce qu'il perde totalement conscience pour ne plus ressentir un symptôme qui est déclaré comme insupportable. Donc la sédation, les médecins y avaient recours bien avant cette loi. Par exemple, quand vous êtes victime d'un grave accident de la circulation, la première chose que font les réanimateurs, c'est de vous sédater pour permettre une meilleure prise en charge avec un relâchement musculaire, avec une amnésie de la douleur, etc., etc. Nous-mêmes, en soins palliatifs, la sédation, on y avait recours. On y avait recours devant des situations insupportables pour le patient. Je vous donne les deux exemples les plus classiques, c'est la détresse respiratoire. En clair, je suis désolée d'employer ces mots, mais quelquefois le malade, on a l'impression qu'il étouffe. Voilà, ou quand il y avait des hémorragies massives, et à ce moment-là, le médecin décidait de faire une sédation. C'était une sédation qui était proportionnée, qui était temporaire. Enfin, je l'emploie à l'imparfait, mais en fait, on l'utilise toujours. Mais c'était un geste médical à l'initiative du médecin. Bien sûr, si le patient était conscient, on lui expliquait ce qu'on allait faire. Si la famille était là, on expliquait aussi à la famille. Et comme c'était des situations qui, en général, survenaient vraiment au terme de la vie, on expliquait que peut-être cette sédation qui se voulait temporaire allait peut-être être définitive jusqu'au décès. Mais ça, personne n'en avait la maîtrise. Voilà. Et donc, ça nous arrive, et ça nous arrive encore, de procéder à ce genre d'acte thérapeutique, hein, mais c'est un geste à l'initiative du médecin. Voilà. Là où la loi change complètement les choses, c'est que cette sédation est devenue un droit. Voilà. Donc, on a Alors, il y a des conditions. Il y a trois conditions, quand même, ce qu'oublient parfois les patients ou les familles. Il faut d'abord que le pronostic vital soit engagé à court terme. Donc là encore, le législateur reste très très flou. Qu'est-ce que c'est qu'un pronostic vital engagé à court terme? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est 3 semaines? Ou est-ce que c'est 3 mois? Donc là, c'est laissé à l'appréciation du médecin. Il faut que le patient souffre de ce qu'on appelle une souffrance réfractaire. Une souffrance réfractaire, ça veut dire que malgré tous les traitements actuels en l'état de la science, malgré des associations de médicaments, etc., la souffrance ne disparaît pas. Le problème pour la souffrance physique, quand on est bien formé à ça, on arrive dans 90% des cas, à la faire disparaître. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est comment définir une souffrance psychique réfractaire. C'est-à-dire que le patient, il vous dit que psychologiquement, il souffre et que cette souffrance est insupportable. Et c'est difficile à un moment de savoir si on rentre dans le cadre de la loi ou pas. Il y a un troisième cas où la sédation profonde et continue peut être instaurée, c'est quand il y a des patients qui dépendent d'un traitement vital, genre par exemple une ventilation, quelque chose comme ça, et qu'ils demandent l'arrêt du traitement, puisqu'ils ont le droit de demander l'arrêt du traitement. Donc voilà, ce sont trois critères qui sont assez exceptionnellement réunis enfin, dans mon expérience. Ça reste assez exceptionnel. Le souci, c'est que la loi l'ayant présenté comme un droit, ça modifie beaucoup la relation médecin-patient. C'est-à-dire qu'avant, c'était une relation, alors, soit de confiance, ça c'est mieux, mais c'est quand même la relation médecin-malade, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler une alliance thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut que les deux soient d'accord et travaillent un petit peu ensemble pour arriver à quelque chose. Là, le fait que des actes médicaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être prescrits que par des médecins, deviennent un droit, c'est compliqué. Ça change cette relation thérapeutique un petit peu en une relation contractuelle. Pour vous donner un exemple, on a des patients, alors c'est écrit sur le dossier en général, parce qu'ils nous préviennent quand même, chaque patient qui arrive dans l'unité de soins palliatifs, en fait, il a fait l'objet d'une demande. On est malheureusement obligé de sélectionner parce qu'on a beaucoup plus de demandes que de places. Et on a plusieurs critères de priorité. Hein. Quand un patient est à domicile et qu'au domicile ça ne tient plus, ben forcément ils sont prioritaires pour arriver chez nous. Et puis, une autre catégorie de patients prioritaires, c'est quand il y a un critère éthique. Donc on nous met dans le dossier, par exemple, demande d'euthanasie. Donc ça veut dire les services, ben, ils ne savent pas trop bien comment faire, et donc ils nous les envoient. On est supposé savoir répondre à ce genre de problématique. Et puis, on a vu apparaître ben, de plus en plus sur les demandes d'admission, demandes de sédation profonde et continue. Donc on avait quelquefois des patients qui arrivaient un jeudi chez nous et qui nous disaient, ben voilà, j'ai pris rendez-vous avec mes enfants, donc vous me faites ma sédation profonde et continue demain à 14h. Bon, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, voilà, il faut beaucoup de diplomatie. Après, il y a des situations de véritable souffrance hein, qu'on ne nie pas. Mais voilà, on a toujours besoin de beaucoup d'écoute pour essayer un petit peu de décrypter ce qui sous-tend ces demandes. Une autre modification de la loi Claeys-Leonetti, c'est que les directives anticipées, autrefois, elles n'avaient qu'un rôle consultatif. C'est-à-dire que quand le patient arrivait avec ses directives anticipées, c'est assez exceptionnel, les personnes qui ont vu leurs directives anticipées, on en a très très peu, elles avaient un avis consultatif. C'est-à-dire que le médecin est tenu de les mettre dans le dossier, de les consulter, mais il n'était pas tenu de les appliquer. Après, les directives anticipées sont souvent rédigées quand la personne est en bonne santé et les choses peuvent évoluer ensuite. Je donne toujours l'exemple d'un patient qui est arrivé avec 3 pages de directives anticipées. Donc, nous, on est très contents parce qu'on envoie tellement peu de directives anticipées. Donc, c'était assez poétique. Enfin, il avait écrit plein de choses, notamment qu'il voulait mourir vivant. Voilà, je pense qu'il voulait dire qu'il voulait rester en pleine forme jusqu'au bout, vivant jusqu'au bout, et nous disant qu'il regrettait vraiment de ne pas pouvoir être euthanasié, parce que pour l'instant, l'euthanasie n'est pas autorisée, demandant la sédation, enfin, voilà, refusant l'obsédation déraisonnable. Ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui le mettent maintenant dans leurs directives anticipées. Et donc, voilà, donc il regrettait de ne pas pouvoir être euthanasié et il n'a eu de cesse, durant tout le séjour, de demander à ce qu'on le renvoie vers son oncologue pour refaire une nouvelle chimiothérapie. Voilà, donc c'est pour vous dire que parfois c'est un petit peu mouvant. Donc la nouveauté de la loi Claeys-Leonetti, c'est que maintenant les directives anticipées s'imposent aux médecins. C'est-à-dire que, en fonction de ce que la personne a écrit, on est quasiment obligé de suivre. Voilà. Les seules circonstances où on n'est pas obligé de suivre ces directives anticipées, c'est en cas d'urgence manifeste ou quand ces directives sont manifestement inappropriées. Donc plus ça va, plus je trouve que le législateur, il aime bien utiliser le flou quand il ne sait pas très très bien quoi dire. Donc voilà, c'est à nous de déterminer quand est-ce que les directives anticipées sont manifestement inappropriées. Heureusement, ils ont parlé du cas d'urgence parce que je vous cite par exemple le cas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils refusent les transfusions sanguines. Donc ça, ils le mettent dans leurs directives anticipées quand ils en ont fait, oralement, puisque maintenant les directives anticipées peuvent être aussi orales, ils disent qu'ils refusent les transfusions sanguines. Ce qui met les médecins quand même dans de grandes, grandes difficultés. Donc il y a des médecins des médecins ou des chirurgiens ou des anesthésistes qui refusent de prendre en charge ces patients-là, et d'autres qui passent outre. Voilà. En général, la jurisprudence donne raison aux médecins, mais c'est pas évident. Voilà. Donc tout ça, c'est 2016. Et puis, depuis, vous avez vu quelques mois, il y a un lobby assez actif qui a essayé de faire passer déjà une première loi au mois d'avril l'année dernière et qui, pour des raisons juste procédurales, n'est pas passée. Et alors, c'est assez, pour l'instant, c'est assez indéterminé. Moi, mon avis personnel, c'est que on nous brandit l'épouvantail de l'euthanasie, mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter au suicide assisté. Vous savez, quelquefois, on fait peur, on prend quelque chose juste en dessous, et comme ça fait moins peur. Le suicide assisté, c'est le patient qui s'administre lui-même une substance létale, une substance mortelle. Alors, le suicide assisté, je vais vous expliquer après comment ça se passe dans les autres pays. C'est donc le patient, alors par exemple en Oregon, aux États-Unis, ça a été le premier pays à instaurer le suicide assisté. Le patient, c'est depuis 1997. Donc le patient qui a un pronostic à moins de 6 mois, il a une ordonnance, il reçoit une ordonnance d'une substance mortelle. Il va chez son pharmacien, le pharmacien lui délivre cette substance, et ensuite il rentre chez lui. Et puis soit il décide d'avaler son comprimé, soit il décide de ne pas l'avaler. Les études statistiques ont montré que 60% des personnes l'avalaient, 40% finalement ne passaient pas à l'acte. Voilà. Et cette prescription, elle a une durée limitée de 6 mois. Voilà. C'est-à-dire qu'il a 5 mois et 29 jours pour se décider à aller chercher son comprimé à la pharmacie. Donc ça, c'est en Oregon. En Suisse aussi, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas l'euthanasie qui est légalisée, c'est le suicide assisté. Sauf qu'en Suisse, les Suisses sont des gens quand même bien organisés, le suicide assisté ne se pratique pas à l'hôpital. Ce sont deux associations, une qui s'appelle Dignitas, non mais là aussi les mots sont quand même assez bien choisis, Dignitas et l'autre Exit. Bon. Ce sont des associations à but lucratif, quand même, il faut le dire, voilà. Donc, qui organisent tout, hein, votre transport, votre hébergement. Vous allez peut-être me trouver un petit peu cru par moment dans les mots, mais c'est la réalité. Donc ils organisent votre arrivée, votre hébergement, donc on vous prépare une substance dans du jus d'orange, voilà, Et puis il prévoit aussi le retour du corps, parce que quand même, ça aussi, il faut envisager la suite. Donc, voilà comment ça se passe. Actuellement, le lobby est donc très puissant. Emmanuel Macron a fait un pas de plus en s'entourant des conseils de Lynn Renault. Je ne savais pas qu'elle avait des compétences particulières sur le plan médical. Je pense qu'elle a dû vivre une situation difficile. Voilà. Tout ça, je le dis un petit peu de façon humoristique, mais c'est pour dire qu'il y a des associations qui sont très très actives. Moi-même, j'ai été auditionnée par une commission de sénateurs d'un certain bord politique qui, en fait, a déjà une loi dans ses cartons. Ils ont été très très discrets et m'ont auditionné parce que je pense que ça fait partie du... il faut qu'ils auditionnent quand même aussi des gens des soins palliatifs, mais à la fin, ils m'ont clairement laissé entendre que la loi était déjà dans le carton. Donc il y a une association qui est très active qui s'appelle l'Association pour mourir dans la dignité. Donc enfin, ça a fait son chemin que nous aussi, on aidait les gens quand même à mourir dans la dignité. Et donc maintenant, ils vont changer leur terme et ça va s'appeler vraisemblablement mourir dans la liberté. La liberté de qui ? Voilà, ça peut se discuter. Et donc ils sont très très actifs. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la réflexion de M. Macron qui a dit que ce qui avait sa préférence pour lui, c'était le modèle belge. Donc, je vais vous expliquer très brièvement comment ça se passe en Belgique. Donc, en Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis 2002, c'est-à-dire qu'on a 20 ans maintenant de recul. Donc, ils ont été assez précurseurs. Au départ, c'était vraiment réservé aux situations exceptionnelles. Hein. Vous savez, c'est comme tous les tabous qu'on brise, à mon avis. Au départ, c'est exceptionnel. Et puis après, un tabou qui est brisé, il se banalise. Hein. Et après, ça n'est plus un tabou. Ça, il faut qu'on en ait vraiment conscience. Moi, je le vois aussi avec les soignants, avec la sédation profonde et continue. Au début, ça leur a posé des questions. Puis maintenant, je trouve qu'il y a quand même une certaine banalisation de l'acte. Donc au départ, ça devait être une circonstance exceptionnelle. Sauf que maintenant, ils ont ouvert l'euthanasie aux mineurs. Voilà. Depuis 2014. Il faut quand même savoir que le plus jeune mineur qui a été euthanasié en Belgique, il avait 9 ans. Alors, il faut souffrir d'une affection grave et incurable. Donc, l'autisme, par exemple, c'est une affection grave et incurable. Il faut présenter une souffrance importante, inapaisable, insupportable, ou bien des polypathologies. Donc, par exemple, vous pouvez avoir de l'arthrose et puis la cataracte, ou des choses comme ça. Polypathologies qui mènent à l'exclusion sociale. La demande doit être volontaire. Je reviendrai sur ce point-là parce que je reviendrai après là-dessus. Répéter. Or, en fait, on s'aperçoit que le délai en Belgique, entre le moment où le patient fait sa demande et le moment où le médecin l'autorise, est assez court. Je crois que c'est un mois. Quant à M. Touraine, quand il avait présenté son projet de loi pour l'euthanasie, lui, il parlait de 4 jours. Hein. Il suffisait de répéter sa demande au bout de 4 jours et c'était bon, c'était plié. Voilà. Si on tombe sur un médecin qui n'est pas d'accord avec l'euthanasie, il a obligation de l'envoyer vers un autre médecin. Les contrôles se font a posteriori. Donc, c'est quand même toujours intéressant de décider si une euthanasie était légale, si on le décide après. Voilà. Les commissions de contrôle n'ont pas les moyens suffisants puisqu'ils ont 300 dossiers à étudier sur 2 heures. Et donc là, il y a 2 événements qui viennent de survenir en Belgique et qui devraient, je pense, un petit peu faire réfléchir les tenants du modèle belge. Le 4 octobre, la Belgique a été condamnée pour contrôle inopérant. Il s'est agi d'une femme qui était dépressive depuis une quarantaine d'années, mais elle n'avait jamais été hospitalisée, en fait, parce qu'à part sa dépression, elle n'avait pas d'autres maladies. Et donc le médecin l'a euthanasiée sans en prévenir sa famille. Donc le fils a intenté un procès au médecin, d'autant plus que ce médecin était très haut placé dans la commission de contrôle des euthanasies. Donc là, la Belgique s'est fait contrôler. Et le dernier événement en date en Belgique, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est l'euthanasie d'une jeune femme de 23 ans, qui en fait était à l'aéroport de Bruxelles le jour de l'attentat. Je crois que c'était en 2015 ou 2016, je ne sais plus très bien. Et en fait, elle était à côté des terroristes qui se sont fait exposer. Voilà. Et du coup, elle devait avoir, je ne sais pas, 16 ans à l'époque. Et donc, elle a présenté une dépression grave. Elle a demandé à être euthanasiée et on la lui a accordée. Donc voilà. Les derniers chiffres montrent que en Belgique, 2,5% de la population meurt par euthanasie, ce qui fait une personne sur 40. Donc voilà le modèle belge dont voudrait s'inspirer M. Macron. Il faut s'apercevoir aussi que tous les pays européens sont en train d'évoluer vers un petit peu la même chose. Hein. L'Autriche, en 2022, a autorisé, alors bien sûr on ne dit plus suicide assisté, on dit assistance au suicide, autorisé l'assistance au suicide depuis 2022 dans un cadre privé. C'est une personne tierce qui le fait. Là, c'est dans l'année qui suit la délivrance du médicament. Et surtout, il n'y a pas de notion de pronostic. Donc, vous n'avez même pas à prouver que vous avez un pronostic vital très court. Ça n'entre pas en ligne de compte. Et puis, il y a beaucoup de pays qui autorisent l'euthanasie et l'assistance au suicide. C'est le cas des Pays-Bas depuis 2001, ouvert aux mineurs de plus de 12 ans. 4,2% du nombre total de décès, ce qui est absolument énorme. Au Luxembourg, depuis 2009, au Canada, 2016, Australie, je ne sais pas l'année, la Nouvelle-Zélande, 2021, et l'Espagne, 2021. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un mouvement de fond. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans notre service quand on a une demande d'euthanasie? Je crois que je vais devoir bientôt passer aux questions parce que je me laisse emporter par. Souvent, ces demandes d'euthanasie, en fait, elles cachent bien autre chose qu'un véritable désir d'être euthanasiée. Hein. Il y a des personnes qui ont envie d'être rassurées aussi, qui ont envie simplement qu'on leur dise qu'on va les soulager, qu'ils comptent encore pour quelqu'un, que leur vie a du sens. On a beaucoup de réflexions de personnes âgées et peut-être que je conclurai par là. Je me dis que ça s'appelle mourir dans la liberté, mais je pense qu'on va obliger les gens, et notamment les personnes âgées, à l'envisager. Pour l'instant, c'est facile, l'euthanasie, elle n'est pas autorisée. Donc, les personnes peuvent s'autoriser à nous dire, vous savez, docteur, j'ai envie de mourir, ce qui est logique chez une personne âgée, fatiguée, malade, tout en sachant qu'on ne mettra pas son désir, on ne réalisera pas son désir. Une fois que l'euthanasie sera légalisée, d'abord, il y a des personnes qui l'envisageront juste pour ne pas peser sur les autres, alors qu'ils ne l'auraient pas du tout envisagé. Et plus grave encore, il y a des personnes qui s'autorisent à dire qu'elles veulent mourir parce que c'est peut-être aussi l'amorce d'un dialogue, voilà, et qui ne s'autoriseront plus à le dire. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. En fait, je pourrais vous parler pendant 3 heures, mais enfin, je m'arrête.
Merci beaucoup, Alex. Donc, il y a des questions à la salle.
N'y a-t-il pas une intention économique, parce qu'on manque de place dans les maisons de retraite, enfin, le Covid ça s'est un peu arrangé, mais on ne sait pas quoi faire de la grand-mère, donc c'est du pratique.
Oui. Alors c'est quelque chose qui n'est pas bon de dire publiquement, mais il est évident que même dans l'avis du CCNE qui vient de sortir, alors qu'il nous fait d'abord toute une tartine en nous disant qu'il faut développer les soins palliatifs, que bien sûr on peut envisager la loi sur l'euthanasie, que si vraiment les gens ont vraiment le choix entre les soins palliatifs et l'euthanasie, sauf qu'on ne nous demande pas de moyens, on ne nous donne pas de moyens, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus cher qu'une euthanasie. Et puis le président de la mutuelle de la MGEN, qui s'est prononcé publiquement en faveur de l'euthanasie. Alors moi je veux bien que ce soit juste idéologique, mais enfin je pense qu'il s'est calculé aussi, donc voilà. Oui, c'est aussi économique, bien sûr. Et puis ça résoudrait la crise de l'hôpital, parce qu'il y a véritablement une crise à l'hôpital, et ça, voilà.
Si quelqu'un ne veut plus vivre, c'est pas une infraction pénale de se suicider. Donc je ne vois pas pourquoi c'est médicalisé. Qu'est-ce que je veux dire?
Oui. Alors en fait, les partisans du suicide assisté mettent en avant une toute petite frange des maladies neurologiques. On pense beaucoup notamment à la maladie de Charcot. Voilà. Donc la maladie de Charcot, c'est une maladie où vous vous paralysez progressivement, qui a une durée moyenne de vie de 3 ans, et c'est vrai que les conditions de vie ne sont pas vraiment pas faciles. Donc en fait, les partisans du suicide assisté se servent de cette petite minorité de patients qui, elle, est incapable de se suicider toute seule, et qui ne relèvent pas de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, parce qu'ils ont un pronostic qui n'est pas engagé à très court terme. Nous, dans notre service, on a, jusqu'à la crise du Covid, on était quand même un des services de Paris où on prenait les maladies de Charcot, en sachant qu'à chaque fois, on bloque un lit, parce que ça demande effectivement beaucoup d'aide. En fait, ces personnes-là, elles ne nous demandent rien. Elles demandent simplement à ce qu'on s'occupe bien d'elles, voilà. Mais, d'ailleurs, c'est ce que m'ont dit les sénateurs, en fait. Enfin, les sénateurs n'ont pas eu le courage de me dire, c'est la secrétaire des sénateurs qui me l'a dit juste avant mon audition. En fait, ils voulaient se servir de cela. Parce que ça concerne très très peu de gens. Est-ce qu'il faut modifier une législation pour un problème? C'est une grande souffrance, hein, là-dessus. Pour m'être occupée de ces personnes-là, je sais que c'est extrêmement difficile pour les soignants, pour les familles. Paradoxalement, il y a des études qui montrent que entre la représentation qu'on se fait de cette maladie quand on est en bonne santé et comment on réagit une fois qu'on l'a, qui sont très étonnantes, parce qu'il y a des études qui montrent, et il y en a eu plusieurs aux États-Unis, en Europe, qui montrent que ces patients-là estiment qu'ils ont une qualité de vie tout à fait correcte, alors que leur entourage ou même leur médecin pensent que la qualité de vie n'est pas extraordinaire. Donc c'est là-dessus qu'on voudrait...
Parce que finalement, la demande d'euthanasie, c'est aussi souvent une demande de la famille, des proches qui ne supportent pas de voir la personne qu'ils aiment souffrir. Oui. Si tout le monde est pris en charge, il y a beaucoup moins de demandes d'euthanasie.
Bien sûr, mais ça nous arrive quand même en soins palliatifs où les patients eux-mêmes, ils sont apaisés, ils sont soulagés, et on a des familles pour qui c'est insupportable. Je pense que ce qui est le plus insupportable, c'est l'incertitude, en fait. Si encore on leur disait, bah, écoutez, voilà, on est le 6 juin, votre mère va mourir le 12 juin, finalement, je pense que ça leur irait. Mais en fait, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors qu'avec l'euthanasie, on sait, on sait. Et nous, c'est ce que souvent on leur dit, mais venez dans la chambre, regardez, est-ce qu'il a l'air de souffrir? C'est vous qui souffrez, est-ce qu'on peut vous aider? Voilà, mais il y a des demandes émanent aussi des familles. La proportion, je ne pourrais pas vous dire.
puis ma dernière question, comment, enfin, moi ce qui m'étonne un peu, c'est qu'un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate, qui est là pour sauver la vie, puisse donner la mort. Et donc, est-ce qu'il n'y aura pas de médecin? Enfin, ça va vous mettre dans un cas de conscience terrible. Je pense que pour beaucoup de médecins, c'est intenable comme situation.
Alors, pour les soignants de soins palliatifs, et je pense pas seulement aux médecins, je pense aussi aux infirmières, hein, parce que c'est quand même souvent elles qui poussent la seringue, il y a un consensus hein, qui fait que quasiment tous les soignants de soins palliatifs sont opposés à l'euthanasie. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les effets de leur travail et que c'est un petit peu, le mot peut-être un peu fort, mais c'est un peu une gifle pour eux, c'est difficile quand une famille nous dit, alors que le patient il est apaisé, il est soulagé, qu'il dit maman, il faudrait qu'il meure, c'est un petit peu difficile pour nous entendre, même si on est là pour l'entendre. Donc la grande majorité des soignants de soins palliatifs sont opposés. La Société française de soins palliatifs a fait un sondage qu'elle a répété, elle l'a fait il y a 2 ans et l'année dernière, et il y a 92% des répondants qui disent qu'ils sont totalement opposés à l'euthanasie. Il y en a pareil, à peu près la même proportion qui dit qu'ils feront jouer leur objection de conscience. Et un pourcentage un petit peu plus petit qui dit non, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, je ne le ferai pas, je quitterai la profession. Après, c'est ce que je vous explique sur la banalisation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, une fois qu'un tabou est transgressé, la première fois on a beaucoup de mal, la deuxième fois un tout petit peu moins de mal, et puis après on finit par. Ça devient quelque chose de banal. Et la dernière chose pour laquelle moi le modèle belge me fait très peur, c'est que l'euthanasie se passe dans les services de soins palliatifs. Donc ça veut dire que d'un côté du couloir, il y a les patients qui demandent l'euthanasie. Et puis de l'autre côté, voir les patients de soins palliatifs. Et mon directeur m'a posé la question l'autre jour. Il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire si dans votre service, vous prenez des patients et puis qu'ils vont vous demander l'euthanasie? Parce qu'il sait très bien que moi, je vais faire jouer l'objection de conscience. Je lui ai dit, répéter, voilà. Et bah, je lui ai dit, vous savez, je pense que tout service va faire jouer son objection de conscience. Et là, avec une candeur... désarmante, il m'a dit, ben oui, mais quand même, quand ils seront dans le service, on ne va pas les envoyer ailleurs parce qu'ils veulent aller se faire euthanasier. Bon, ça sera son problème, hein, ça sera plus le mien. mais oui, voilà.
Dans l'éventualité du suicide assisté, que fera-t-on de toutes ces personnes qui se suicident ? On les soignera? Non, parce que c'est des personnes qui se suicident, qui ne sont pas en situation de maladie grave.
Oui, mais tout dépendra aussi des critères. Et puis, on parle d'autonomie, parce qu'en fait, ce qui est mis en avant, c'est le principe d'autonomie. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on nous dit, mais tout le monde a le droit de choisir sa mort, chacun est autonome, c'est pas à vous de décider pour quelqu'un. Sauf que l'autonomie, ok, on parle de l'autonomie de la personne qui veut se suicider, mais l'autonomie de la personne qui va devoir lui donner un médicament, elle est où? Enfin, je veux dire, on oublie aussi un petit peu l'autonomie du soignant. Enfin, nous, on se sent déjà parfois en difficulté. Comme je vous dis, quand des patients arrivent, alors qu'ils ne répondent pas aux critères de la loi et qu'ils nous disent « je vous préviens, je veux ma sédation demain à 14h », c'est pareil, ils vont arriver dans le service et puis on devient des prestataires de service. Et là, notre autonomie, notre serment d'Hippocrate, notre vocation aux soins, la mort ne sera jamais un soin pour un soignant, pour un médecin. Enfin, je pense que ça, il faut le dire et le redire.
Oui, donc cette évolution est désormais quasiment inévitable, puisque selon le professeur Touraine, nous avons du retard sur les autres pays européens. Et est-ce que cette réflexion ne traduit pas l'espèce de grande confusion qu'il y a aujourd'hui sur notre pensée européenne et occidentale, qui ne sait plus discerner les choses, alors que pour autant, je dirais, l'Europe représente encore aujourd'hui un symbole d'humanisme, et que l'humanisme est hérité depuis 2000 ans, hein, une tradition, je dirais, du christianisme. Et est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une perte complètement de repères dans une société qui est assez inquiétante quand même?
Oui, oui. Vous parlez de perte de repères, je pense que oui, les gens ne réfléchissent plus. Les gens confondent la compassion et l'émotion. En fait, l'émotion, c'est le sentiment qui vous saisit comme ça et puis qui vous bouleverse. Dans la compassion, enfin, je ne sais pas si c'est un mot qui est devenu un petit peu péjoratif, mais il y a aussi un sens de l'action, en fait. C'est-à-dire que la compassion, vous ressentez la souffrance de l'autre, mais vous faites quelque chose pour agir. Mais oui, on est dans une société sans repère, et qui ne réfléchit plus, ou en fait, la télé réfléchit pour nous, en fait. Je pense que c'est ça. Donc, voilà. Là, moi, je vois bien dans les médias qui sollicitent les acteurs de soins palliatifs, c'est... on n'a pas beaucoup de médias favorables à l'euthanasie. C'est-à-dire que chacun a ses... à ses interlocuteurs de choix. C'est-à-dire qu'on voit la DMD sur beaucoup de plateaux. La DMD, c'est l'association pour mourir, pour le droit à mourir dans la dignité, qui s'appelle encore comme ça, mais qui a moins aidé le changement. Voilà. C'est... Je pense que on parle toujours du sondage où 95% des Français seraient pour l'euthanasie. Mais en fait, il faut voir comment on leur a posé la question. Est-ce que vous préféreriez être euthanasié plutôt que de mourir dans des souffrances atroces? Mais tout le monde ne meurt pas dans des souffrances atroces. Là, si on est bien formé, si on est... Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu un documentaire sur la Belgique, bien sûr, et la médecin expliquait que, bah oui, euthanasié, parce que vraiment, la personne souffrait trop et tout. Et en fait, un œil un petit peu avisé, vous voyez que la perfusion qu'elle recevait, c'était du doliprane, quoi. Donc je pense que la médecin, en termes de formation à la douleur, n'est pas ce qu'il fallait. Donc voilà. Et en Belgique, je reviens toujours à la Belgique, hein, parce que comme ce serait apparemment le modèle qui arriverait, un patient a le droit de refuser les antidouleurs et de dire ah non, moi je veux pas d'antidouleur, je vais être euthanasie. Enfin voilà, après c'est la porte ouverte à tous les abus. Et à toutes les dérives, et c'est ce qu'on voit en Belgique. C'est...
d'autonomie. Moi, j'ai grand peur de l'aspect statistique et que ce soit un système qui décide pour nous. Alors, comme vous disiez, on a besoin de lui, ou pire encore, les statistiques de personnes soignées en soins onéreux sont trop élevées, donc on va en faire disparaître certains. Et si besoin, on le fait signer des directives anticipées pour l'hygiène.
Oui, moi ce que je vois déjà avec cette nouvelle loi sur la sédation profonde et continue, c'est que d'un côté on parle de l'autonomie des patients et de l'autre côté on encourage la toute-puissance des médecins. Parce qu'en fait, moi ce qui me préoccupe beaucoup, c'est toutes les personnes qui sont inconscientes ou qui ne sont plus en état de décider. Donc typiquement les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, les personnes âgées qui sont démentes. Et ce qui est dramatique à l'heure actuelle, c'est que sous couvert d'une procédure collégiale, il suffit qu'un médecin aille voir un médecin d'un autre service, que tous les deux se mettent d'accord, qu'on respecte la procédure, et du coup c'est eux qui décident. Et pour la sédation profonde et continue, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand, à l'heure actuelle, dans notre service, quand un patient demande une sédation profonde et continue, soit assez vite on arrive à convaincre la personne qu'elle ne répond pas aux critères, soit si le cas est un petit peu plus litigieux, on fait ce qu'on appelle une réunion collégiale. Alors, bon, dans notre service, on est quand même formé, enfin, moi j'essaye aussi de bien veiller à ça et d'être un petit peu le garde-fou, mais je sais comment ça se passe dans les autres services. Du moment que sur le papier la procédure a été respectée, c'est-à-dire que vous avez fait appel à deux médecins, un qui est en charge de médecin, de malade et un autre, que vous avez bien tracé dans le dossier, que vous vous êtes réunis, etc. Après, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est ça qui est fait très très peur. C'est... voilà.
Et si le malade n'est pas capable, n'a pas la capacité à apprécier son état. Donc, la famille derrière a quand même son mot à dire. Les médecins n'ont pas la puissance de décider de la vie ou de la mort de la personne. C'est ça qui, moi, m'interpelle. Il y a quand même un garde-fou par rapport à ça. Parce que, comme vous dites, si quelqu'un arrive en service et Alzheimer, bon, donc lui, il est complètement à côté de la plaque. Mais les derniers décideurs, c'est soit les proches, soit le médecin, ou c'est peut-être une combinaison des deux qui peut paraître logique, en sachant que le conseil du médecin risque de primer peut-être sur la famille, pour la femme, la personne. C'est ça qui est un petit peu ambigu.
Alors, la loi... Bon,
je schématise.
Oui,
hein.
Oui, mais c'est une très bonne question. Et c'est très compliqué, notamment en réanimation. Il faut savoir que 40% des patients qui sont hospitalisés, ça se termine par un arrêt des traitements. Voilà. Donc, la loi a instauré la personne de confiance. La personne de confiance, c'est que maintenant, dès que vous mettez un pied à l'hôpital, on vous demande de désigner une personne de confiance. Encore faut-il vous expliquer ce que c'est que la personne de confiance, qui est complètement... c'est pas forcément votre conjoint, c'est pas forcément la personne à qui il faut téléphoner en premier parce que vous avez mal. La personne de confiance, c'est justement la personne qui sera l'interlocuteur des médecins le jour où vous serez plus en état de lui parler. Voilà. Sauf que cette personne de confiance, c'est toujours pareil, son avis n'est que consultatif. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, vous désignez votre conjoint comme personne de confiance, ou alors quand c'est un enfant, bah, c'est forcément... Alors là, pour le coup, c'est les parents, puisque ce sont les tuteurs légaux. Voilà. Mais leur avis n'est que consultatif. Et actuellement, il y a un procès, parce qu'il y a un monsieur, je crois que c'est dans l'Est de la France, il y a un monsieur qui a été hospitalisé en réanimation, et il avait écrit ses directives anticipées en disant qu'il voulait qu'on continue l'alimentation, l'hydratation, et ce n'était pas du tout l'avis des réanimateurs. Donc les détails, je ne sais plus très bien comment ça se termine, mais en tous les cas, c'est un procès actuellement. Dans l'ensemble, ce sont des décisions combinées, médecins et famille. En règle générale, les familles font confiance aux médecins. Voilà. Après, les difficultés, ce sont les cas litigieux, mais en l'absence de directives anticipées, parce qu'en fait, c'est ça qui prime. Maintenant, elles sont contraignantes pour le médecin. La personne de confiance, elle n'est pas contraignante pour le médecin. Donc, si vous avez écrit, alors ce sera « je veux être euthanasié », il faudra se trouver un médecin pour vous euthanasier. Voilà. Si la personne de confiance dit « ah non, moi, je ne veux pas qu'on euthanasie mon père », mais voilà.
Si le malade n'a rien écrit, si j'ai bien compris, dans le mécanisme, la personne arrive au service, vous avez un dossier sur lequel il a mis toutes ses doléances, si je puis dire. Et s'il n'a rien écrit ?
Eh bien, s'il n'a rien écrit, le médecin fait ce qu'il veut.
Donc, on...
Après, on n'est pas là pour non plus... Enfin, je vous espérais.
Moi, j'avais une question. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de Vincent Lambert, qui en fait n'était pas en fin de vie, en fait. Hein. Et du coup, bah, c'est déjà, enfin, à mon sens, c'est déjà une première dérive qui a été faite, c'est que du coup, on peut pénaliser quelqu'un qui n'est pas du tout en fin de vie, et ça se faisait visiblement. Avec ce cas-là, ça se faisait déjà. Donc, en fait, on peut pénaliser sur des critères.
Oui.
Là, pas de la fin de vie, ni d'une souffrance, enfin, ni pour le coup la douleur physique.
Oui. De toutes les façons, l'affaire Lambert, je passais assez rapidement dessus, mais ça n'a été qu'une suite de dérives, de défaillances. Enfin, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi, ce qui m'a quand même impressionné, c'est que quand j'en discutais avec mes collègues de soins palliatifs, j'étais une des rares à dire que j'étais choquée. Parce que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Voilà. Et qu'on... Enfin, voilà. Ça veut dire qu'on peut finalement décider de ne plus nourrir ni déshydratés, les handicapés. Enfin, c'est un très très mauvais, très très mauvais exemple. Alors moi je pense que la faute, elle est là, elle est de le laisser souffrir. Elle est de le laisser souffrir. Moi je vous dirais quand même que depuis 14 ans que je travaille en soins palliatifs, j'ai quand même vu une amélioration dans les services hospitaliers traditionnels. C'est-à-dire que grâce au travail des équipes mobiles de soins palliatifs qui passent dans les services, la douleur est bien mieux prise en compte. Moi, je vois les patients qui arrivent dans notre service, ils ont quand même des ordonnances qui tiennent la route. Il y a 14 ans, c'était du paracétamol, point. C'est tout. Or, maintenant, ils arrivent quand même avec vraiment des traitements qui tiennent la route. Et voilà. Après, tout ne va pas se faire en un jour, ça c'est sûr. Et c'est évident que ça demande beaucoup de formation, beaucoup de patience. Le drame, c'est les EHPAD. Enfin, je veux dire, s'il y a bien une proportion de gens dont le pronostic vital est engagé, c'est quand même en EHPAD. Et en EHPAD, vous n'avez pas d'infirmière la nuit. Vous n'avez pas d'infirmière la nuit, donc vous n'avez pas de seringue électrique. Donc, vous vous fermez à je ne sais pas combien de traitements antidouleurs, enfin, de traitements tels que nous, on les utilise dans notre service. Enfin, c'est dramatique. Mais ça, c'est une volonté politique aussi. C'est une volonté politique. Donc effectivement, à force de laisser souffrir les gens, ben, les gens viennent à conclure quoi ? Parce qu'ils ont vécu des choses comme ça inadmissibles autour d'eux. Et ben forcément, moi je verrais quelqu'un qui souffre à mort et on ne peut rien faire, ben, je serais comme tout le monde, je dirais, mais ben, ça suffit, faites une piqûre et qu'on n'en parle plus. Mais ça, c'est une volonté politique. Pourquoi ? Parce que c'est une volonté financière. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'infirmière la nuit dans les EHPAD ? Ben, voilà, parce que ça coûte cher. C'est tout.
Donc j'ai travaillé, j'étais infirmière puéricultrice, j'ai fait un début de soins palliatifs, justement pour pouvoir accompagner les polyhandicapés dans les institutions et parmi les hospitaliers. Ça a du sens. Et quand vous parlez en Belgique, qu'on pratique une euthanasie pour un autiste, je trouve ça très très grave, excusez-moi. Mais ça m'a choqué.
C'est pour ça que j'ai passé peut-être un peu trop de temps sur le. On ne peut pas parler de modèle belge, mais enfin, c'est l'expression qui a été reprise. Parce qu'avec 20 ans de recul, enfin, les dérives. Mais de toute façon, c'est ça. Hein, chaque étape est de nouveau un palier vers quelque chose. Voilà. En tous les cas, on ne grandit pas en humanité, ça c'est clair. C'est clair.
Est-ce que dans le cursus médical, il y a une formation maintenant obligatoire de soins palliatifs ?
Oui, mais elle n'est pas très très intense, mais elle y est, ça y est, elle y est. Et honnêtement, enfin, moi je constate quand même une amélioration au niveau des internes, ça a quand même bien bien changé. Il y a quand même des points positifs.
C'est pas une question, mais je pensais à... J'ai entendu un philosophe qui parlait de rupture anthropologique. Et je trouve que ça devrait vraiment nous aider à réfléchir et à méditer, parce que là, on passe un cap vraiment au niveau de l'humanité. Et ça m'a beaucoup frappé, cette rupture anthropologique, parce que je crois qu'on y est et qu'on est à un tournant très important de notre humanité, de ce que l'homme représente. Merci.